Bonjour à tous et bienvenue dans Freaks et Merveilles, un podcast sur le drag bruxellois. Ça y est, les hors-séries sont terminées. On reprend le rythme d'un épisode toutes les deux semaines à la rencontre des drags qui font vibrer Bruxelles et croyez-moi, il reste de belles surprises dans mon sac. On y va ?
Mais je pense qu'il faut expérimenter en fait, il y a que ça et puis et c'est aussi comme ça qu'on trouve une identité propre et pas juste un copier-coller de drag queen qui existe déjà partout et qu'on voit partout. Enfin, c'est un peu épuisant de voir les mêmes choses tout le temps, donc créer quelque chose de nouveau et ça arrive qu'en expérimentant, pas en suivant des tutos.
Aujourd'hui, j'accueille une drag queer chère à mon cœur. Par son univers tendre et fou, par sa puissance et sa simplicité, mais surtout parce qu'elle est sacrément talentueuse. Un exemple au hasard ? C'est Yel qui a créé l'identité graphique du podcast. Vous pouvez la voir arpenter le cabaret Mademoiselle et bien d'autres lieux en tête de bébé géant, en plante ou en roller disco. Je suis très honoré d'accueillir Eve is sick of Adam. Avec Yel, on a parlé de faire soi-même et de faire pour les autres, de trouver sa place et de rêver grand, de douceur et de puissance. Belle écoute, et à bientôt. Eh bien bonjour Eve, comment bonjour. Ça va ?
Ça va très bien.
Oui, ça va bien. Je te propose de plonger dans le cœur du sujet du jour, comment être drague et... bricoler, faire soi-même, oui, le do-it-yourself et le drag, et tes looks, parce que tu fais des looks qui sont vraiment assez incroyables, des tenues sur mesure, des têtes de bébés géantes, des marionnettes, de la peinture fluo, et puis parfois simplement des talons noirs et une chemise un petit peu oversize, et voilà. Comment tu les crées, tes looks ?
Pour moi, les looks, c'est vraiment au service du numéro, donc... ça dépend vraiment de ce que je veux raconter. En général, je ne sais pas si le look vient toujours après la musique, mais c'est souvent dans ce sens-là. Ou en tout cas, le look vient après l'idée de base. Des fois, ça part de la silhouette aussi. Par exemple, la tête de bébé dont tu parlais, c'est venu de la silhouette. Et puis, j'ai trouvé le reste du numéro après. Mais c'est plus rare. Et en fait, j'ai l'impression que je pense un peu mes looks comme des illustrations, puisque c'est de là que je viens. Donc c'est un peu chacun des personnages séparés, qui ont un lien quand même, parce que c'est moi derrière, mais c'est un peu une galerie de personnages variés.
Mmh. Oui, et ben, la variété, ça te connaît. Tu couds, tu danses, tu te maquilles, tu manipules des marionnettes. Tout ça, c'est des compétences que tu avais déjà en commençant le drag, ou c'est des choses que tu as acquis petit à petit ?
Je crois que j'avais des bases en commençant. Bah déjà, enfin comme je disais, du coup, je viens de l'illustration, donc j'avais une base en dessin et en technique graphique, quoi, enfin en esthétique, je sais pas, j'avais déjà fait des trucs quand même. Et après la couture, je cousais un peu, mais vraiment pas grand chose, je savais pas faire un patron ni quoi que ce soit. Donc ça, j'ai vraiment appris. Le maquillage, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est mes compétences de dessin qui se sont traduites en maquillage au fur et à mesure. Donc je sais pas, je pense que j'avais des compétences, mais j'ai traduit les compétences que j'avais pour que ça me serve dans le drag.
Et pour des... parce que, par exemple, la couture, c'est quand même... Il y a des techniques à apprendre, il y a des trucs.
Il paraît.
Toi, c'est vraiment...
Moi,
en
je
explorant
fais ça n'importe
petit
comment.
Petit.
Ah ouais. Non, mais ouais, je pense que des vrais couturiers verraient de près mes costumes, ils seraient complètement horrifiés parce que rien n'est fini comme il faut. Enfin, j'ai pas les fils de la bonne couleur. Enfin... il y a plein de trucs qui vont pas. Mais ouais, c'est au fur et à mesure, en essayant et en ratant, que ça finit par marcher. Et aussi, les tissus élastiques. Ça,
c'est bien.
Ça, c'est très bien, parce que tu peux faire ce que tu veux. Tu peux couper pas droit, tu peux faire n'importe quoi. Et puis, finalement, ça se...
Trop bien. Est-ce que c'était important pour toi, déjà en commençant le drag, de se dire que c'était toi qui faisais tes looks? Est-ce que pour toi ça fait partie de l'identité de Eve is sick of Adam, ou est-ce que juste ça s'est fait comme ça?
Je pense que ça s'est fait un peu par défaut, parce que j'ai jamais eu vraiment trop de sous à investir dans mon drag, et j'aime bien apprendre à faire les choses, donc ça m'intéresse toujours d'aller chercher le tissu moi-même et de tester, de voir ce que j'arrivais à en faire. même si c'est pas aussi professionnel que si j'avais demandé ça à un styliste. Je pense aussi qu'il y a un gros problème d'ego où quand je fais un truc et que je rate, c'est pas grave parce que c'est ma faute. Si je demande à quelqu'un de faire quelque chose et que c'est pas absolument ce que j'avais attendu, j'aime pas ça du tout. Donc je préfère faire moi-même et rater. Et puis au moins ça correspond à ce que j'ai dans la tête que quelque chose de plus professionnel et plus fini qui sera pas vraiment ce que je voulais. Après, je dis ça, mais j'ai jamais vraiment eu l'expérience de demander à un styliste de travailler sur un look à plusieurs. Enfin, j'ai jamais vraiment eu l'occasion de faire ça. Donc peut-être que ça marcherait aussi. Mais ouais, après, il y a la question du budget qui rentre en compte. Et ça, c'est clair que ça coûte beaucoup moins cher de faire soi-même.
Oui, mais donc justement, la question du budget, parlons un petit peu de sous rapidement, parce que c'est quand même une question importante. Il y a beaucoup de drag disent que, en fait, dans le drag, l'argent qu'on gagne sert à être réinjecté dans les looks suivants. J'ai parlé à plusieurs drags qui ont des tableaux Excel entre les gains et les dépenses et qui, leur objectif est d'être en équilibre ou en léger bonus, mais c'est pas évident. Tu confirmes que ça coûte cher le drag, même quand on fait soi-même ?
Ça coûte cher. Après, moi, c'est quand même mon métier, donc j'ai réussi à en gagner. Enfin, j'arrive à gagner ma vie avec ça, plus les autres choses que je fais à côté. Mais moi, c'est ça qui me paye. Donc, ça, c'est pas non plus complètement un gouffre à argent. Après, oui, c'est pas l'activité la plus rentable du monde, on est d'accord. En fait, je sais pas, parce que moi, j'ai jamais fait de tableau Excel pour ça. Juste, je dépense de l'argent quand j'en ai. Et
t'arrives à payer ton loyer et à remplir ton frigo le reste du temps, quoi.
Ouais.
Et alors, évidemment, j'imagine que ça dépend très très fort d'un look à l'autre et d'une tenue à l'autre, mais à la louche. Un look, c'est environ combien pour que les auditeurs se rendent peut-être un peu compte si t'es capable de.
Bah, ça dépend vraiment de si j'utilise des trucs, des matériaux que j'ai déjà, des restes, des choses comme ça.
Mais genre un look avec, par exemple, un habit, genre une robe ou une jupe et un haut, et puis des talons, et un look un peu basique, entre guillemets, comme ça.
Alors, si on compte une perruque qui serait aux alentours de genre 30 euros à Matonguay. Une paire de chaussures de Vinted qui serait aux alentours de 20 euros et 2 mètres de tissu qui font une robe. Je pense qu'on est à. J'ai oublié de compter dans ma tête.
5, 30 et 20, 60, ça fait 50.
Peut-être 60. Le tissu, 70,
on est à combien? On est à.
Un truc comme ça.
T'arrives à trouver pour 20 euros de tissu de quoi te faire une robe?
Ah ouais, du tissu à 2 euros à 10 euros le mètre, c'est.
Ah, wow.
Ça va.
Ok, donc. Avec beaucoup d'huile de coude et beaucoup de préparation en plus. Parce que donc, du coup, après, il faut. Coiffer la perruque, ça tu sais faire aussi?
Je fais. Je vais finir par savoir faire. Non, je sais, il y a des choses simples à faire, il y a juste placer des bigoudis et foutre de la fumée dessus et de la laque, c'est facile.
C'est ça.
Ça se fait.
Comme ça, on fait quand même un minimum d'effets et de trucs. Et puis compter sur le fait que, comme on dit parfois aux personnes qui commencent à se maquiller, c'est du maquillage de scène, c'est de la tenue de scène. Les gens ne vont pas venir voir à la loupe de près les petites finitions.
Mm-hmm. Et donc, non, c'est vrai que de loin, ça suffit.
Justement, pour tout ce qui est cet apprentissage de compétences, ces tests, etc., est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu fais dans ton coin? Ou est-ce que en plus, toi, tu fais partie de la troupe du cabaret Mademoiselle depuis 3 ans ?
4 ans.
4 ans ?
4 ans et demi.
4 ans et demi. Waouh. Depuis 4 ans et demi, félicitations.
Je dis et demi comme un an. 4 ans et demi.
Est-ce qu'il y a, à ce niveau-là, est-ce qu'il y a de la solidarité entre les performeuses? Est-ce que vous filez des trucs? Est-ce que vous faites des sessions pour, je sais pas, coudre ensemble ou faire vos wigs ensemble et tout? Ou ça reste quand même quelque chose d'un peu solitaire et d'un peu...
Concrètement, il n'y a pas trop de... On ne fait pas vraiment d'ateliers où on se croise tous ensemble et on travaille tous ensemble. Ça arrive... Je crois que c'est jamais arrivé, d'ailleurs. Après, dans l'échange des connaissances, si, complètement. Enfin, dès que j'ai une question, dès que je cherche quelque chose... une technique ou trouver un certain matériau que je cherche, je sais que je peux toujours envoyer un message ou demander directement à n'importe qui du cabaret, on va me répondre et on se partage nos secrets.
Et ben justement, en parlant de secrets, on dit aussi souvent que pour le moment, le drag, ça s'apprend beaucoup sur YouTube, avec des tutoriels et tout. Toi aussi, tu as des chaînes YouTube de couture ou de maquillage ou de coiffure, de perruque, etc., que tu utilises beaucoup ?
De coiffure, pas du tout. Je me suis jamais vraiment renseignée sur ça. J'ai juste essayé des choses et ça... Ça n'a pas marché, puis après j'ai refait et ça a marché. Le maquillage, au début, ouais, je regardais pas mal de trucs. En fait, je regardais surtout les vidéos des drag queens du cabaret que je connaissais et que j'admirais, dont Mademoiselle Boop. Surtout Mademoiselle Boop. Mais je sais pas, j'ai dû en regarder 2-3, et puis une fois que j'avais la technique... Après, c'est expérimenter et puis trouver mon propre processus à moi. Et alors, la conception, la couture, un petit peu, oui. C'est surtout des TikTok de trucs genre comment ajouter une tirette. Parce que ça, j'ai pas encore compris. Donc, plein de petits trucs très précis, de techniques de couture vraiment... de finition que je connais pas. Ça, j'essaye de sauvegarder, de revenir quand j'en ai besoin. J'ai dû suivre des tutoriels de couture, je sais pas.
Et prendre des cours, ça te dirait ou...
Oui, mais il faut voir des gens, il faut sortir. Non, mais je sais pas.
Non, mais c'est intéressant, je trouve, de te dire aussi qu'en fait, peut-être que c'est pas évident pour tout le monde d'aller...
Ouais, bah ça c'est clair que c'est pas évident pour moi. Après, si j'en avais vraiment besoin, je pense que je me pousserais à aller prendre des cours. Mais j'ai pas l'impression que ça me manque et j'ai pas l'impression que je pourrais trouver un cours qui m'apprend précisément ce dont j'ai besoin. Parce que c'est des trucs très spécifiques. Genre, je pense pas que dans un cours de couture, on apprenne à faire des coulisses pour un pantalon qui s'enlève tout seul. Enfin, on va m'apprendre à faire une jupe portefeuille et ça m'intéresse moyen.
J'entends. Donc, j'entends. Ouais. Et ben, s'il y a des auditeuristes, des drags ou des baby drags ou même des gens que ça intéresse plus largement, qui aimeraient se lancer justement dans ce fait de faire soi-même, est-ce que tu aurais des trucs, des conseils ou des choses à éviter pour peut-être gagner du temps et de l'argent?
Évitez d'acheter des perruques lisses et de ne pas les coiffer. Faites des choses avec vos perruques lisses. je sais pas, tiens, des conseils. Mais je pense qu'il faut expérimenter, en fait. Il y a que ça. Et puis, et c'est aussi comme ça qu'on trouve une identité propre et pas juste un copier-coller de drag queen qui existe déjà partout et qu'on voit partout. Enfin, c'est un peu épuisant de voir les mêmes choses tout le temps. Donc... créer quelque chose de nouveau et ça arrive qu'en expérimentant, pas en suivant des tutos.
Yes. Oui, eh ben, super, ben, merci déjà. Et puis, je pense qu'on parlera hors micro encore de ces perruques lisses parce que c'est un sujet sur lequel je commence à avoir besoin de conseils aussi. Mais pour recentrer sur eh ben justement sur ton identité propre, nous arrivons dans la deuxième partie de ce podcast où nous penchons un petit peu plus sur le parcours de Eve Sick of Aiden. Et pour commencer, assister à un numéro ou un show d'Eve Sick of Aiden, ça ressemble un petit peu à ça. On the rain.
Versace blue jeans, black designer underwear. We'll dress up like the disco, dancing jet set in the lighting room. And if you got some sugar for me, sugar daddy, bring it home.
Born. And so you're free. So happy birthday.
So let's love for me, let's love loud, let's love now. Cause soon enough we'll die. 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 Soon enough we'll die. Cause soon enough.
Waouh. C'est déjà tout un voyage hein, entre la pop, le disco, puis des morceaux plus sensibles, plus qui portent des messages plus forts.
Bah oui, il en faut pour toutes les heures de la soirée.
Ah oui, ça en fonction de l'heure de la soirée, tu fais tel ou tel morceau.
Ouais, complètement. Bah oui, si je fais Soko à 5h du matin devant un groupe de gens bourrés, ça ne peut pas marcher.
Donc si Soko, c'est le dernier morceau qu'on écoute,
ouais,
c'est ça.
Ouais, c'est ça. Enfin, en fait, je dis ça, mais je l'ai déjà fait à 3h du matin en after. Et finalement, les gens bourrés étaient complètement hypnotisés.
Ah, cool. Cool, ben oui, ça va dans tous les sens. Et alors, pour commencer, la légende dit que tu dessinais soir après soir les reines du cabaret Mademoiselle jusqu'à ce qu'elles te proposent de passer de l'autre côté du miroir. Est-ce que c'est vrai?
Presque. Ah. Elles n'ont pas vraiment proposé. Elles ont ouvert des scènes ouvertes et j'ai été candidatée à la scène ouverte.
Ah, waouh.
Puis elles ont accepté que je vienne. Mais on ne m'a jamais rien proposé. J'y suis
D'accord.
allée. J'y suis allée. Ça m'a pris beaucoup d'énergie et de courage. Et c'était absolument terrifiant, mais j'y suis allée.
C'était avec quel numéro ton...
Bah, c'était Soko, le premier.
Ah,
le
wow.
premier, ouais.
Ah ouais, il faut y aller en plus avec ce... Un truc qui n'est pas de la pop
c'était...
américaine hyper explosive.
Ouais, ça c'était la première scène... Quand j'ai été engagée officiellement, ma scène ouverte c'était The Man, donc c'est une autre musique qu'on a entendue aussi et que je réutilise aujourd'hui et que j'ai refait un numéro complètement différent dessus parce que le premier essai c'était pas vraiment concluant.
Mais tu es une personne affable non binaire, j'imagine que t'avais pas énormément de représentation dans le monde du drag. Pour te donner la légitimité, en tout cas le sentiment de légitimité de monter sur scène, ça s'est passé comment ça?
En fait, ce questionnement-là, il est arrivé très tôt, avant que je connaisse le cabaret même, juste quand je commençais à m'intéresser au drag et que je regardais Drag Race pour la première fois et où je me disais « Ah, j'aimerais tellement faire ça, mais je peux pas ». Et puis bizarrement, c'est une copine hétéro cis qui n'est pas du tout éduqué sur aucune question LGBT, qui m'a dit bah fais-le, qu'est-ce qui t'en empêche? Juste avec sa logique imparable de bah non, pourquoi tu pourrais pas? Donc j'ai dit oui, c'est vrai, en fait c'est complètement con de penser que j'ai pas le droit parce que je suis affable. Et en fait à partir de là j'ai plus vraiment ce questionnement là. Au cabaret j'ai jamais ressenti aucune sorte de discrimination par rapport à ça. C'était vraiment comme si j'étais n'importe qui d'autre, quoi. C'était là pour le coup, c'était. Je pense que j'ai eu de la chance que le cabaret soit là au moment où j'en avais besoin parce que je sais qu'ailleurs à Bruxelles c'est pas la philosophie. Mais non, au cabaret c'était vraiment. C'était même plutôt encensé en fait que je sois pas un homme parce que ils cherchaient aussi à diversifier. Le drag qui présentait. Donc ouais, non. Là, au cabaret, ça a tout de suite été normal. Mmh.
Et ton nom, c'est déjà tout un programme. Eve is sick of Adam. Eve, on a marre d'Adam.
Personne ne comprend jamais mon nom.
Pourquoi?
Parce que c'est en anglais. Les gens, ils ne comprennent pas. Je dois le répéter 15 fois et le réécrire sur un bout de papier, sinon s'inscrivent pas à mon Instagram. Ils s'inscrivent pas. J'ai 50 ans.
On n'est pas bankable. Pourquoi ce nom? Pourquoi toute cette phrase? C'était en plus avec une référence biblique dedans, ouais. Et tout. C'est vraiment tout un univers qui est déjà amené par là.
En fait, ce nom, il vient. Bon, c'est une référence biblique, mais c'est surtout une référence à un film qui s'appelle Hedwig and the Angry Inch, qui est aussi une comédie musicale.
Dont on a écouté une reprise.
Oui, on a écouté une reprise. Mm-hmm. Ouais. Et en fait, il y a une scène dans ce film-là où c'est Tommy, un adolescent un peu perdu, qui vient de tomber amoureuse de cette drag queen transgenre. De Berlin-Est, donc enfin il est perdu dans sa vie et il a ce discours sur Ève et sur la Bible et sur le fait que Dieu c'était vraiment un connard parce que il n'avait rien compris et que Ève c'était elle qui savait des choses vraiment et Adam est juste inutile je pense je m'en fous un peu de la référence biblique parce que j'ai jamais été baigné dans la religion, j'ai jamais, enfin, c'est pas du tout quelque chose avec quoi j'ai, enfin, c'est pas quelque chose qui me touche, j'ai jamais vraiment, je sais pas comment dire, ouais, tu comprends ça.
Ça te définit.
Oui, ça me définit pas du tout et ça fait pas du tout partie de mon univers, mais c'était plutôt ce personnage qui est complètement perdu et qui essaye de comprendre des choses et qui essaye de les réciter, enfin qui essaye de les expliquer, mais qui vient avec des définitions pseudo-philosophiques sur des choses qu'il ne comprend pas. Et en même temps, c'est hyper poétique ce qu'il raconte. Donc, moi, c'est ça surtout que je voulais référencer, parce que c'est un peu comme ça que je me sentais à l'époque, perdue, et j'aimerais bien expliquer la vie, mais je ne sais pas comment faire, donc je dis n'importe quoi.
Donc ce nom était là dès le début.
C'est ça, ouais. Mmh. Ouais. Donc ce nom, il vient de ça. Il vient de ce film.
Ok. Et est-ce que Eve a un peu compris un peu plus ce qu'elle faisait là depuis ou...
Ouais, je pense.
Ouais, tant mieux. Ouais. Oui, tu rejoins les rangs du cabaret Mademoiselle il y a donc 4 ans et demi.
Oui.
à la suite de ces scènes ouvertes. Et donc quoi, ça s'est passé comment? Donc t'as participé à une scène ouverte et clairement c'était affiché que c'était en vue d'engager des nouveaux artistes dans la
non.
Et des nouvelles artistes dans la troupe ou...
Non, c'était pas du tout le but de la scène ouverte. Le premier but c'était d'ouvrir la scène à des personnes qui avaient jamais fait de drag ou de burlesque ou d'autres disciplines. Et puis en fait quelques mois plus tard, ils ont lancé du coup les after shows qui se passait de 2h à 5h du matin. Bruno cherchait de nouvelles recrues pour faire ces soirées-là.
Oui, parce que du coup, c'était quoi pour un peu, entre guillemets, prendre le relais de la troupe. La troupe faisait le spectacle jusqu'à minuit, et puis à 2h du matin, il y avait une deuxième équipe, entre guillemets, qui prenait le relais,
c'est ça. Des fois, ça se mélangeait un peu, genre les gens de l'équipe, la première équipe continuait un peu après. Je pense qu'on n'a jamais été que les New Babies, on s'appelait.
New Donc Babies.
C'était Athéna Sergelikis, Saskia Van Fotsen et moi, au tout début.
Oui, c'était un batch de qualité, les New Babies du Mademoiselle.
C'était la première vague de nouvelles recrues du cabaret, je pense. Mm-hmm. Donc on n'a jamais été vraiment que tous les trois... dans la soirée, enfin, il y avait toujours quelqu'un donc, qui nous accompagnait, un peu comme qui nous parrainait. C'était souvent soit Edna, soit Boop. Et quelqu'un qui était là pour tenir le micro aussi, parce que ça n'était pas encore dans nos cordes.
Ouais. Et ça a été ce rythme nocturne? Je sais pas si toi, c'est quelque chose dont tu avais l'habitude ou...
Non, pas du tout. Ça a été, oui. Enfin... À ce moment-là, tout ce que je voulais, c'était être sur cette scène. C'était le rêve le plus fou de ma vie. Donc, depuis, j'en ai d'autres. J'en ai trouvé d'autres. Mais ouais, donc en fait, je m'en foutais d'être fatiguée. C'était... Je pense que ce qui était compliqué, c'est que le public entre 2h et 5h du matin, quand ils ont déjà commencé la soirée avant, c'est compliqué de capter leur attention. Mais en même temps, j'aimais bien le défi. Et bien, surtout, comme je disais, faire de la danse contemporaine sur une musique en voix piano à 7h06, c'était un challenge. Mais,
Oui, parce que tu as aussi un background de danseuse. En tout cas, tu avais pris des cours de danse étant jeune, si
ouais.
je ne me trompe pas.
Oui, j'ai grandi en dansant, en prenant des cours de danse. Ça a toujours été en amateur, hein, par contre.
Donc de danse classique ?
Non, contemporaine. Non,
contemporaine ouais. dès le début, d'accord.
Ouais, ouais.
Et du coup, ça aussi, c'est une compétence que tu as pu réinjecter ?
Oui, complètement. C'est drôle, j'en parlais le week-end dernier avec quelqu'un du public, mais je disais, j'ai vraiment grandi en dansant et donc ça fait partie de la manière dont je m'exprime, pas les mots apparemment. donc oui, c'est juste logique pour moi de danser pour raconter quelque chose. C'est presque instinctif parce que ça a toujours été là.
Mmh. Et puis tu fais aussi du roller quand même sur cette scène du cabaret Mademoiselle, sur lequel parfois en deux pas de danse on est déjà au bout de la scène. Toi,
et
tu viens faire du roller dessus.
Oui, mais ça j'ai appris à faire du roller pour la première série de numéros que j'ai fait au cabaret, donc pour cette première soirée des New Babies. J'ai vraiment appris
d'accord.
le roller.
Donc
ça.
En fait, ça a été un espace d'expérimentation assez chouette, quoi.
Ouais, complètement. Complètement. Et là aussi, en termes de partage de compétences, c'est Willy, donc The Flying Willy du Cabaret Mademoiselle, qui m'a appris deux, trois pas de danse en roller pour que je puisse faire ce premier.
Et après, du coup, tu t'intègres l'équipe du Cabaret Mademoiselle qui fait les premières parties de soirée,
ouais.
entre guillemets.
Bah, ça s'est fait petit à petit, en fait, parce que de plus en plus, ça se croisait.
Ah,
les artistes de la troupe de la première partie voulaient faire la deuxième partie et ça se croisait. Et puis, j'ai fini par être en première partie aussi.
Mmh. Ouais. Ouais, et donc, le Cabaret Mademoiselle, t'as fait aussi donner des cours à des nouveaux et nouvelles dont j'ai fait partie à l'époque. Mes premiers mouvements d'éventail, c'était avec Evie Sikofeydem en prof. t'es aussi allé en Angleterre, t'es allé en Croatie. Ça fait quoi du coup d'être attaché à cette troupe et de... Est-ce qu'il y a de la pression de devoir tenir un peu parce qu'on te fait confiance ou est-ce que c'est vraiment que du plaisir de...
Je pense qu'au début, il y avait beaucoup de pression parce que j'avais aussi un énorme syndrome de l'imposteur, mais vraiment, vraiment étouffant. Et j'avais tellement d'admiration pour les gens du cabaret. Enfin, j'étais dans le public pendant quelques mois avant ça et je les admirais comme si c'était des dieux. Donc en fait, être sur la même scène, ça me foutait une pression énorme parce qu'il fallait que je sois au niveau. Donc au début, c'était très très compliqué. Je crois que j'ai passé les 6 premiers mois à me demander quand est-ce que j'allais me faire virer parce qu'ils allaient se rendre compte que ça n'allait pas. Mais ça n'est jamais arrivé. Et puis maintenant, ça va mieux. Et puis, mon niveau a aussi évolué. Donc je vois maintenant que je suis au niveau. Je pense que j'ai un regard assez neutre là-dessus, mais...
Plus juste, quoi.
Ouais.
Plus juste qu'avant.
Oui,
peut-être.
C'est ça. Mais cela dit, maintenant, quand je revois les vidéos du début, c'était pas dingue. C'était moyen, mais c'est normal. Enfin, on commence tous par être moyen, voire mauvais. Enfin, faut passer par là, quoi. Mmh. Et puis, ça change. Il y a des gens qui ne changent pas. C'est le plus triste. mais si on est un peu curieux et qu'on a un peu d'intelligence de travail, ça change et ça évolue et on progresse et puis on finit par devenir quelque chose d'intéressant.
Tu fais aussi des numéros de marionnettes, on l'a déjà dit plus tôt dans l'émission. Est-ce que c'est quelque chose qui te tient à cœur d'amener d'autres choses au cabaret ou en fait juste comme c'est quelque chose que t'aimes et que tu fais par ailleurs dans ta vie, c'est naturellement que ça vient?
Je sais pas si c'est le désir d'amener quelque chose d'autre. Non, je crois que vraiment, c'est, euh, Ça m'a pris pendant le confinement. Je me suis dit, tiens, j'aime bien les marionnettes. Je vais faire une formation. Et voilà, maintenant, je suis marionnettiste. Oups. Mais non, non, je sais pas. C'est quelque chose qui m'intéresse. Je pense que c'est aussi lié à l'illustration. En fait, je peux faire plus de choses, plus difformes. Je peux aller plus loin que le maquillage, en fait. Mmh. C'est un peu comme ça que je le vois. C'est comme une déformation du corps, mais qui va plus loin que le padding ou les talons. C'est l'étape... je sais pas si c'est l'étape d'après, mais c'est une autre étape.
Ouais, ouais. Oui, et puis bah, du coup, ça amène de la 3D, ça amène ouais.
Plein de choses. Tout ce que la marionnette peut raconter sur la mort, sur le soi, sur mm-hmm. plein de choses. Mais...
Tu restes beaucoup au Cabaret Mademoiselle. Est-ce que c'est parce que tu es bien là et que du coup tu cherches pas d'autres scènes ou tu as envie de t'exporter, d'aller voir ailleurs ?
C'est sûr que c'est très confortable d'être au cabaret. On a nos habitudes, on a nos places de maquillage, on a mes costumes sont là-bas la plupart du temps. Donc c'est super confortable d'être au cabaret. Moi j'aime bien aller performer ailleurs aussi. Et surtout... Surtout quand c'est des endroits où je peux adapter mes numéros. Enfin, par exemple, j'ai un numéro sur l'Italo Disco qu'on a entendu tout à l'heure aussi, où je circule beaucoup dans la salle. Et ça, j'aime bien le faire dans d'autres endroits parce que je peux changer les circulations, je peux changer les interactions que j'ai avec le public. Je peux escalader d'autres objets. Je peux monter sur un autre bar. Donc, j'aime bien faire des choses ailleurs. Après, je suis vraiment pas très douée pour envoyer des messages et dire « Bonjour, je suis drag queen et j'ai des numéros, est-ce que vous voulez bien m'inviter ?» Donc j'attends qu'on vienne me chercher. Mais des fois, ça arrive, donc ça me va.
Bien, dans ce cas, allez chercher.
C'est ça, allez me chercher.
Et en parlant de ça, tu as fait tes débuts au théâtre il y a quelques semaines au moment d'enregistrer. Donc dans une pièce que je porte qui s'appelle Sans titre ni bite,
oui.
Qu'est-ce que ça fait d'arriver au théâtre ?
Au début, c'était terrifiant, évidemment. mais en fait, je pense que ça me faisait peur avant qu'on commence de travailler. Et puis, quand on a commencé vraiment à répéter pendant le mois qui a précédé la première... En fait, ça allait beaucoup mieux parce qu'on a travaillé, que je voyais que ça allait, que ça marchait. Donc j'avais moins peur de ce que ça pourrait donner au résultat final.
C'était lié à quoi tes peurs ?
C'était surtout lié à parler. Parce que sur scène, moi, je ne parle pas. Jamais. Enfin, ou en tout cas, je ne parlais pas. Maintenant, je parle. Mais non, mais c'est quelque chose que j'avais jamais fait, en fait. Ouais. Si, j'avais joué dans une pièce au collège quand j'avais 13 ans, mais bon, on peut pas dire que c'est de l'expérience. Ouais, c'est ça, c'était l'utilisation de la voix. C'était vraiment effrayant. Et puis aussi, le fait que c'est la première fois que j'étais sur scène sans vraiment avoir de masque. Parce que ce soit en marionnette ou que ce soit en drague, c'est un masque, on est caché derrière et c'est beaucoup plus simple. Là, j'étais beaucoup plus proche de ce que je suis dans la vraie vie. Et ça, c'était aussi effrayant. Ouais, mais au final, ça s'est bien passé. Et une fois qu'on a commencé à jouer, j'avais plus vraiment peur de ça. C'était du trac normal, mais c'était pas au-delà de... Au-delà du trac.
Tu t'attendais pas à ce qu'on te vire la veille de la première,
non.
Quoi.
Non, ça va.
Super. Est-ce que c'est quelque chose que tu referais ?
Ah ouais, avec plaisir. Mais je pense que j'ai besoin d'être avec des gens avec qui je m'entends vraiment bien pour travailler sur scène. Donc oui, avec plaisir, s'il y a un projet intéressant ou s'il y a des gens intéressants qui me proposent un projet.
Allez chercher Avicii Coffee.
Allez, venez me chercher. Mais ouais, j'ai besoin d'être en confiance totale avec les gens avec qui je travaille. Parce que justement, toutes ces questions de vulnérabilité font que si ça se passe pas bien humainement, c'est pas possible.
Pour revenir plus au drag et à ton personnage de Eve, c'est un personnage qui reste très fluide, très mouvant. Tant dans les esthétiques que dans les types de numéros, on l'a entendu avec les extraits passés là. C'est une volonté de ta part de voyager entre les genres, tant les genres musicaux que des apparences plus freak ou plus femme, etc. sur scène.
Je pense que le côté non-binaire et fluide, en fait, ça vient juste parce que ça me représente moi. C'est une partie de moi, donc comme je suis non-binaire et fluide, et ben mes numéros le sont aussi. Et après, je sais pas si... Je sais pas pourquoi j'ai tant de styles de numéros différents. Mais je pense qu'il y a surtout cette question de... Ça dépend des moments de la soirée. C'est compliqué d'avoir un personnage de drag qui fait que des numéros très calmes et très tristes. Parce que dans une soirée, il faut tout. Il faut un peu que ça décolle à certains moments. Y a des numéros que j'ai fait vraiment purement dans cette optique-là, de tiens, il faut un numéro qui danse pour la fin de la soirée.
Ah oui, donc parfois tu penses quand même des numéros, alors pas vraiment comme des commandes, mais en disant, ah, il y a encore ce trou-là dans mon répertoire, ou cet endroit-là où je pourrais avoir un atout en plus dans ma manche, et ça dirige aussi la création parfois.
Je sais pas si ça la dirige, mais en tout cas ça donne une impulsion pour créer quelque chose de nouveau.
Tu construis parfois des accessoires ou des masques pour d'autres.
Oui.
Tu as parlé plutôt dans l'émission de l'exigence que tu aurais si tu commandais quelque chose pour toi. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça fait justement pour toi de travailler, donc notamment dans cette petite émission belge qui est passée il y a quelques semaines, Drag Race, tu as fait la merveilleuse headpiece de Mademoiselle Boop pour le look surréalisme qui était vraiment incroyable.
Oui.
Tu as participé aussi au look de Blabla d'Edna qu'elle n'a pas pu montrer sur scène mais qu'elle a montré sur son Instagram.
Ouais.
Pour situer un petit peu le genre de réalisation que tu as faite. Comment ça se passe de travailler pour d'autres?
C'est super chouette, moi j'adore. J'adore parce que juste le fait de me concentrer sur l'aspect technique, c'est super agréable. C'est vachement reposant de ne pas réfléchir à toutes les significations derrière tout. C'est beaucoup plus simple quand on me dit « Tiens, je voudrais ça. » Et du coup, je le fais. C'est pas plus compliqué que ça. Mais je pense qu'en termes d'exigence, enfin, on parlait d'exigence, j'ai aussi une exigence technique beaucoup plus importante quand je fais des commandes pour les autres. Quand c'est pour moi, quand c'est pour mon drag, quand c'est quelque chose que je vais utiliser moi, je laisse passer beaucoup plus de trucs, de coutures pas finies, de colles qui se décollent à certains endroits. Enfin, je me dis que c'est pas grave et que c'est tant pis. Quand c'est pour quelqu'un d'autre, c'est des choses auxquelles je fais beaucoup plus attention et j'ai beaucoup plus d'exigences techniques.
Pourquoi?
Parce que j'ai envie qu'on me réengage après.
C'est une excellente réponse.
Oui. Non, et puis il y a un peu ce truc de comme je suis payée à faire quelque chose, je vais le faire jusqu'au bout vraiment et je vais fournir le plus de travail possible. Quand c'est pour moi, je me paye pas quand je fais des costumes pour moi-même. Donc... y a un moment, je suis fatiguée, j'allais me reposer, et puis c'est pas grave, cette couture elle est pas finie, c'est comme ça.
Mmh.
Mais oui, il y a un peu ce truc de comme je suis payée, il faut que ce soit professionnel, quoi.
Ouais. Pour revenir aux différentes performances que tu proposes, parfois tu es bookée dans des événements particuliers, mais par exemple, tu as fait la soirée d'ouverture de Anima.
Cette année. Et c'était la soirée de la soirée queer.
La soirée
LGBT.
En tout cas, tu es booké pour des événements particuliers, à des moments particuliers. Est-ce que... quelle est la liberté qui est laissée par exemple, toi qui as un panel de numéros assez important, est-ce qu'il y a quand même des demandes de... on vous book, mais on veut un truc qui n'est pas trop bizarre, ou on veut des numéros qui soient plutôt joyeux, ou quoi? Ou est-ce que juste, en fait, on te book et... Avec les autres artistes qui sont bookés, vous vous mettez d'accord sur ce que vous faites assez librement?
Quand ça passe par le cabaret, on est en général complètement libre de faire ce qu'on veut. Après, on se pose quand même la question. Par exemple, j'ai des numéros où ça finit en nudité intégrale. Je ne vais pas forcément faire ça dans un parc ou dans un endroit où je ne suis pas à l'aise.
Oui.
Donc on se concerte quand même un peu. En général, je demande l'avis aux personnes qui ont organisé pour savoir un peu l'ambiance de la soirée et savoir ce qui correspondrait le mieux. Mais après, sinon, en théorie, je fais ce que je veux. Et ouais. Après, quand c'est moi qui suis bookée seule et que ça passe pas par le cabaret, je me pose la même question, en fait. Ouais, j'ai jamais vraiment eu de commande particulière, mais j'essaie quand même de réfléchir à ce qui va fonctionner le mieux avec l'événement que c'est.
On dit souvent, ben justement, en lien avec ça, que le drag est très politique, de manière implicite ou explicite, que le simple fait de montrer d'autres corps et d'autres manières d'aborder les genres, c'est déjà un contenu politique. Est-ce que toi, tu vois ton drag comme un acte politique ou militant ? Est-ce que parfois, tu as des numéros où tu te dis, ça, c'est vraiment pour véhiculer tel message, ou pas trop ?
Oui, mais je pense que, oui, bah comme tu le dis, c'est en soi politique, le drag, quoi qu'on fasse. Moi, je pense que avant tout, c'est quelque chose d'artistique et d'esthétique, et je cherche pas forcément le message. Après, des fois, il a du sens, des fois, il vient. Ça finit souvent féministe, puisque mon personnage de drag est fluide et non-binaire, mais quand même très féminin et inspiré des codes du drag queen, plus que du king. Donc, y a souvent quelque chose de puissance associé à la féminité qui pour moi, est un message de féminisme. Souvent aussi, c'est un peu autobiographique, ce que je fais, en tout cas moi. Et je ne sais pas du coup si c'est politique, mais ça raconte... ça raconte un aspect de la vie d'une personne queer, donc ça l'est en fait en soi.
Il y a des porosités entre ta vie et les choses qui te traversent et du coup ce que tu vas présenter sur scène.
Ouais. Je le vois un peu comme si ce que je présente sur scène, c'est un morceau de moi, une partie, quelque chose que je mets en lumière, quelque chose que j'illustre, mais ça vient de moi au plus profond, quoi. c'est toujours...
T'as parlé d'illustration tout au long de l'épisode. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais encore professionnellement ? Alors, a priori, c'est toi qui as fait les visuels du podcast.
Oui.
C'est bizarre parce qu'au moment d'enregistrer...
Je l'ai fait, bien sûr.
Évidemment. Au moment de l'enregistrer, on n'a pas encore les fonds. Et donc j'ai pas intégré ça dans les questions. Mais a priori, c'est toi qui auras fait les splendides illustrations de ce podcast.
Oh, merci.
Est-ce que... No pressure. Est-ce que a priori est-ce que c'est quelque chose que tu fais encore régulièrement ? Est-ce que tu as encore une activité d'illustratrice ?
J'ai jamais eu d'activité professionnelle d'illustratrice. En fait, ça me sert dans mon travail, mais ça me sert par exemple de faire des croquis et de savoir les proportions d'un corps humain pour faire un costume. Enfin, donc ça c'est utile et en soi ça me sert. Mais d'illustration pure, je fais pas beaucoup professionnellement, ça n'est jamais arrivé. Donc ce serait c'est ma première commande.
Ça a été donc, ta première commande.
Oui.
Et quelle commande. Bon, mais pour terminer, pour toi c'est quoi les prochains horizons vers lesquels le drag ferait bien de se diriger justement en termes de déconstruction, d'interrogation de...
Bah, en tout cas, en Belgique, j'ai l'impression qu'il y a une montée du drag punk de plus en plus et j'espère que ça va continuer, que ce drag disruptif, ce drag des squats, ça va continuer à exploser et que ça va devenir, j'ai pas envie de dire mainstream parce que ça sous-entend que ça va devenir plus gentil, mais plus connu en tout cas. Plus accessible à tout le monde.
Eh bien, on ne peut que le souhaiter.
Oui.
Vive le drag punk.
Oui.
Alors, en conclusion, quelques petites questions rituelles que je pose à tout le monde. Est-ce que le drag va changer le monde ?
Mais c'est déjà en train de changer le monde. ça change le monde depuis que ça existe, donc depuis que le monde existe.
C'est beau. Oui. En quoi est-ce que ça change le monde ?
Je pense que le fait que le drag soit de plus en plus mainstream et visible par tous, ça permet d'amener sur la scène publique des questionnements qui n'étaient pas là avant, notamment sur le genre, mais aussi sur le féminisme, sur les corps, enfin sur plein de questions qui étaient complètement invisibilisées. Le drag permet de mettre ça sur le devant de la scène, sous couvert de divertissement. Derrière, on fait passer des trucs.
Très bien. Et si tu pouvais t'inventer un nouveau drag de zéro, ce serait qui ? Ce serait quoi ?
Mais c'est ce que j'ai fait un peu pendant cette pièce
c'est vrai.
Sur laquelle on a travaillé.
Canard vilain.
Oui, Canard vilain et mon alter ego drag, le deuxième. Je pense que ça ressemblerait pas mal à Canard vilain, en fait. Donc, c'est-à-dire un personnage encore plus gender freak qui a vraiment aucun code. Ou alors beaucoup plus de mixité des codes féminins et masculins. Et je sais pas, c'est aussi un personnage très poétique et très triste, mais ça, j'ai l'impression que Eve l'est déjà. Pas que, mais déjà. Mm-hmm. Donc ouais, ce serait pousser encore plus loin l'esthétique fluide, je pense.
Okay.
Et sûrement plus punk aussi, parce que je ne le suis pas beaucoup, finalement. Un petit peu, mais gentil.
est-ce que tu as un prochain numéro dans les tuyaux ?
Oui, j'ai même deux prochains numéros dans les tuyaux.
Est-ce qu'on peut avoir une petite preview de qu'est-ce que ça pourrait être ?
Alors, pour ceux qui ont vu mon costume de la Pride de l'année dernière, qui était un arbre, il y a quelques photos sur mon Insta, peut-être, je ne sais même plus. Mais donc, il y a ce costume-là que je vais réutiliser pour en faire un numéro, parce que j'ai dépensé beaucoup de temps et d'argent dessus. Donc je vais le rentabiliser. et j'ai envie aussi de porter un message écolo, sans que ce soit bateau, parce que c'est compliqué de faire ça, mais je vais essayer. Et j'ai aussi découvert une chanson, mais dont je tairai le nom, parce que sinon, on va me la voler. sur laquelle j'ai envie de faire un numéro... inspiré du petit chaperon.
Oh, waouh!
Voilà.
T'as vendu rêve. plutôt freak ou plutôt merveille, Evie Sikofeydom?
Plutôt freak, évidemment.
Eh bien, merci beaucoup d'être venue passer ce moment avec moi. C'était très, très chouette de t'avoir.
Ben oui, c'était chouette d'être
et
là.
Et puis, eh bien, vive, vive le genderfuck.
Oui.
Vive les drag punk. et vive la vie.
Oui.
À bientôt.
Vous venez d'écouter Freaks et Merveilles et je vous en remercie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire pleuvoir cœur, étoile et commentaires sur les différentes plateformes où le podcast est recensé pour qu'il gagne en visibilité. Sachez aussi que Freaks et Merveilles vient d'atterrir sur Patreon, l'occasion de mettre quelques euros par mois dans le chapeau virtuel de l'émission pour me soutenir et m'aider à rembourser les coûts de production de ce podcast. Merci à vous, mais surtout, n'oubliez pas le plus important, allez voir et soutenir les Freaks et les Merveilles sur scène. Freaks et Merveilles est un podcast imaginé, créé, enregistré et monté par Croc. Les visuels sont de Maël Christin et l'habillage sonore par King Baxter. Le podcast bénéficie du soutien de la ville de Bruxelles et est propulsé par Murmure ASBL. Merci à eux.